J'aimerais faire une lecture avec vous dans un livre particulier. Un livre qui nous parle de quelque chose qui est absurde, éphémère. Ainsi, en Ecclésiaste chapitre 1 et les versets 2 à 11. Ecclésiaste chapitre 2, chapitre 1, excusez-moi, et les versets 2 à 11. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « Vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Ainsi, le mot qui est utilisé pour traduire « vanité des vanités » se retrouve 37 fois dans ce livre que l'on nomme l'Ecclésiaste. Tout n'est que vanité. Il y a plusieurs définitions. Souffle ou ce qui est passager. Vanité ou vapeur ou brouillard. Mais quel est le sens particulier? Un théologien, un grand homme de Dieu, définira ceci que c'est une absurdité. Selon lui, tout est absurde. Mais qu'est-ce qu'une absurdité? C'est le caractère de ce qui manque de logique. Qu'est-ce qu'une absurdité? C'est le caractère de ce qui manque de logique. Ce qui est absurde. Caractère ou sentiment de ce qui est absurde. Contraire à la raison. Et l'auteur, qui est l'Ecclésiaste, l'utilise de deux manières. Pour ce qui est passager et non permanent. Et pour des situations où les mortels n'ont aucune explication. Dans ce sens énigmatique et illusoire. Ainsi, mon premier point, l'échec de la vie sans Dieu. Comme nous l'avons lu dans le chapitre 1 et les versets 2 à 11, l'échec de la vie sans Dieu. En face d'un mur sale, le peintre, parce que Julien va me confirmer, en face d'un mur sale, le peintre doit commencer par le décaper. S'il veut que sa peinture puisse tenir. C'est ainsi que fait l'Ecclésiaste. Il débute son discours et le poursuit en enlevant méthodiquement toutes les fausses sécurités, toutes les solutions trompeuses que les hommes se donnent pour trouver sens à leur vie et atteindre le bonheur. Ainsi, vanité des vanités, tout est vanité. C'est tout ce qui est futile, vain passager, telle une buée, telle une rosée du matin. Elle n'est que passagère. La vie de l'homme est décrite de cette manière, qu'elle est passagère et elle passe très vite. L'auteur va ainsi directement au but puisqu'il commence par ce qui sera sa conclusion. Tout est absurdité. Tout n'est que vanité. Et dans ce livre, c'est la confiance du lecteur qui vit sa vie sans Dieu qu'il veut ébranler. Il dira bientôt pourquoi et comment il est arrivé à cette déduction. Il y a plusieurs manières d'être athée. On peut l'être de façon philosophique ou théorique en prétendant que Dieu n'existe pas. Ou de façon pratique en disant que qu'importe que Dieu existe, il ne se préoccupe pas de nous et nous n'avons pas à nous soucier de lui. Dans le vécu, cela revient au même. Il semble que Ce soit d'ailleurs cette deuxième attitude que l'Ecclésiaste vise. Il l'a en vue. Tout ce qui est indifférence, tout ce qui est matérialisme, tout ce qui est la superficialité de nos contemporains, croyants, mais non pratiquants. Ainsi, tout est absurde, est repris par Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8 et les versets 20 à 22. Elle est la conséquence du péché de l'homme qui a introduit la mort dans le monde. Elle aura une fin, mais grâce à Jésus, venu nous racheter de la malédiction par sa mort et sa résurrection, le chrétien attend autre chose que la mort. Sous le regard de Dieu, la création est un chant de louange pour le Créateur. Si vous éliminez Dieu, la création devient l'image de la lassitude humaine. D'ailleurs, au verset 9, il dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » C'est de nouveau à partir d'une vision sans Dieu que l'Ecclésiaste affirme une telle chose sous le soleil. Cette affirmation est pleinement vraie et elle invite à réfléchir. Elle invite à réfléchir. Ainsi, je pourrais vous poser la question. Peut-être que savez-vous que la science ne sait toujours pas expliquer ni même définir ce qu'est la vie. Son essence, ni d'où elle vient. Qu'est-ce qui anime un souffle de nos cellules ou par la vie quand elle quitte définitivement notre corps? La vie est donnée. Nous sommes bien obligés de le constater et là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais elle est donnée par qui? La vie est donnée par qui? De plus, les calculs de probabilité sont formels. Impossible que la vie soit née de façon aléatoire. Depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, tout comme l'univers sur notre planète est conçu pour que la vie puisse exister sur la Terre. C'est un équilibre si fin, si bien étudié, si complexe, que la logique nous dit que seule une intelligence peut être à l'origine de tout cela. Et quelle intelligence est assez puissante, éternelle et ingénieuse à ce point? Donnez-moi votre réponse. L'origine du langage. Elle demeure aujourd'hui un mystère. Un langage est complexe, a un but et utilise des concepts d'abstraction. Impossible que ce soit le produit d'un simple assemblage de molécules. Comment ne pas être émerveillé devant l'ADN? Rendons-nous compte, il y a aussi un langage qui préside au fonctionnement des organismes, nous y compris. Qui pourrait soutenir en découvrant un ordinateur sur une plage que ce dernier est le résultat du hasard, de l'action des vents et des marées sur les matériaux au fil des temps? Donnez-moi votre réponse. Ce serait un non-sens. Enfin, tout obéit à des lois. La biologie, la physique, la chimie, même la sociologie et la psychologie humaine. Mais d'où viennent-elles? Une loi ne se fait pas toute seule. Elle est toujours établie par quelqu'un. Or, qui est au-dessus et en dehors de l'univers pour en faire ses lois? Donnez-moi votre réponse. Ainsi, l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 1, verset 20, dit ceci: « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité » se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Lorsque nous contemplons la nature, ceux qui aiment la nature, ceux qui aiment la randonnée, ceux qui aiment les galaxies, ceux qui aiment l'espace, ceux qui aiment tout ce qu'on voit à l'œil nu, quand on est émerveillé, ça nous renvoie à quelqu'un de grand, de parfait. Ainsi, l'échec de la vie sans Dieu. Le croyant, lui, au contraire, sait que, quant à lui, que Dieu est souverain, y compris sur l'histoire des hommes. Le salut offert par Jésus-Christ, les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont des réalités nouvelles que Dieu a introduites dans notre histoire. Ainsi, une vie sans Dieu, elle est absurde. Elle est illogique. Bien sûr que tu peux continuer ta vie sans Dieu. Bien sûr que tu peux continuer dans les voies que tu as empruntées. Mais sans Dieu, la vie que tu mènes, elle est absurde, elle est illogique. L'échec de la sagesse, mon deuxième point, l'échec de la sagesse sans Dieu. J'aimerais qu'on va faire une lecture dans Ecclésiaste chapitre 1 et les versets 12 à 18. Ecclésiaste chapitre 1 et les versets 12, à partir du verset 12 au verset 18. On lira ceci. « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est absurde, et tout revient à poursuivre du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Salomon est le roi d'Israël qui a donné à son peuple le rayonnement le plus grand. Il avait reçu de Dieu le don de la sagesse. Pour ceux qui prennent de notes, les références sont 1 roi chapitre 3 et 1 roi chapitre 5. Et on venait de très loin pour entendre sa sagesse. 1 roi chapitre 10. C'est donc en connaissance de cause qu'il peut en parler. Ici, son propos est de dire que si la sagesse a de la valeur, elle est néanmoins incapable de résoudre le problème de la vie. Il dénonce la sagesse sans Dieu avec sa folle prétention à donner une réponse à tout. Et là, il va donner 3 points, 3 argumentations. Même si c'est pénible de réfléchir sur le sens de la vie, cela fait partie de notre condition humaine. Au verset 14, l'humanité est nécessairement frustrée. Au verset 15, il y aura toujours des problèmes sur lesquels l'homme n'a aucun pouvoir. Vous pouvez lire tous les ouvrages intellectuels de ceux qui ont écrit, de Voltaire, de Vico, de Montesquieu, de Rousseau, de Camus, etc., de Descartes. Vous pourrez lire tous leurs bouquins. Mais aucune solution. Et la Bible nous parle de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Celui qui vient et qui craint l'Éternel, celui qui respecte l'Éternel, celui qui croit en Christ, celui qui vient et qui s'abandonne en Christ, connaît la véritable sagesse et est en relation avec cette sagesse. Et ainsi devient lui plus sage que ceux qui sont sages, devient ainsi plus intelligent que ceux qui sont intelligents. Quelle est l'intelligence dont nous parle la Bible? C'est de connaître l'Éternel. Voilà la véritable sagesse. Et l'intelligence, c'est de connaître l'Éternel. Celui qui veut être sage sans Dieu connaît une vie d'échec, connaît une vie de labeur, de difficulté. Il aura beau réfléchir selon sa logique, cela est peine perdue. Cela vouera à l'échec. Le cheminement qu'il prend est un cheminement d'échec. Et l'auteur dénonce l'échec de la sagesse sans Dieu. On peut lire tous les ouvrages nécessaires de ces grands sages, mais elle est vouée à l'échec. Une vie sans Dieu est vouée à l'échec. Une vie sans la sagesse sans Dieu, elle est vouée à l'échec. Elle est vouée à la tristesse, elle est vouée à la peine, elle est vouée au chagrin, à la douleur, comme nous dit l'auteur. On est prêt à investir beaucoup de choses parce qu'on a émis des hypothèses pour aller sur Mars, pour faire plein de choses. Et cela sera voué à l'échec. Parce que la Bible nous parle que la fin de toute chose est proche. Ainsi, que feras-tu? Seras-tu plus sage que les sages en disant, Seigneur, je viens à toi. Maintenant, je donne ma vie à toi. Je viens et je me donne. J'accepte Christ. Lui, la véritable sagesse. La sagesse donnée par Dieu, qui est venue habiter parmi nous, parmi les hommes, il y a 2000 ans. Ainsi, il dénonce aussi également l'échec des plaisirs. Ecclésiaste chapitre 2 et les versets 1 à 11. L'auteur va dénoncer et va mettre à la lumière l'échec des plaisirs également. Nous vivons dans un siècle où on nous encourage à prendre plaisir, à faire plein de choses. Mais lui va dénoncer cela. C'est-à-dire que l'échec, le plaisir, est voué également à l'échec. Ecclésiaste chapitre 2 et les versets 1 à 11. Ecclésiaste chapitre 2 et les versets 1 à 11. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. C'est encore là une absurdité. J'ai dit au rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécuterai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, j'y plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt et croisser les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes. J'ai eu leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus de tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or et les richesses et des ors et des rois des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai point refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est absurdité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage ou il n'y a aucun profit à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. L'Ecclésiaste maintenant montre que la recherche des plaisirs est incapable d'étancher la soif spirituelle de l'homme. Dans ce domaine également, Salomon pouvait prétendre à une expérience crédible. Il savait que de quoi il parlait. L'Ecclésiaste ne nous prive pas de détails, le vin, le travail, les grandes réalisations, le statut social, le train de vie, le sexe, la jeunesse, les richesses et la puissance. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Avec le recul, il est obligé de constater que tout ceci non plus n'a pas rempli son cœur comme il l'espérait. Quand on lit les journaux, quand on regarde les mini-vidéos sur Internet, on voit combien les hommes riches postent leur maison. Ils ont acheté une nouvelle maison quelque part, tellement grand que pour deux personnes. Ils postent également leur nouvelle voiture, leur nouvelle trouvaille. Ils postent également leur nouvelle conquête. Il y a également dans la Bible, Luc chapitre 12, versets 15 à 21, un homme riche qui dira, j'ai amassé tout mon trésor, je l'ai mis dans le grenier. Repose-toi mon âme, tout sera tranquille. Les jours à venir sera très très bien pour toi. Repose-toi. Mais Dieu dira, insensé, insensé, ce soir même ton âme en sera demandée. L'échec des plaisirs. Il y a également beaucoup de vidéos sur ces footballeurs avec leur maison, avec leur voiture, avec leur conquête. Les stars, les chanteuses, les chanteurs, des groupes musicaux, des grands hommes politiques, des rois, des reines, des princesses, avec tout cet étalage de... Ils ont des avions qui peuvent se permettre d'aller partout, de s'acheter ce que leur cœur désire. Mais cette voie-là est vouée également à l'échec. Parce qu'elle est sans Dieu. Chercher les plaisirs sans Dieu, elle est vouée à l'échec. Elle est vouée à l'échec. Certains ne veulent pas grandir. C'est le syndrome de Peter Pan avec le pays imaginaire. On ne veut pas grandir. On vit dans un pays imaginaire où on ne veut pas grandir. On préfère jouer. On préfère prendre du plaisir. On préfère faire ceci, faire cela. Et on est dans ces temps-ci où tout le monde aime ce syndrome de Peter Pan. Tout le monde aime le pays imaginaire. On ne veut pas grandir. On ne veut pas faire le pas. On veut être neutre. On ne veut pas faire ceci. Mais on veut rester dans ce monde où on ne veut pas s'occuper de ça. et on décide de rester un enfant encore et encore, préférant jouer, préférant prendre plaisir, préférant les voyages, considérant le salut de Christ comme quelque chose d'absurde, alors que c'est le contraire. Alors que c'est le contraire. Ainsi, ceux qui vivent cela disent que Dieu est une béquille pour les faibles, une intervention de l'homme pour se rassurer, pour expliquer que nous ne comprenons pas, Dieu n'étant pas un individu incontournable. Ces personnes se contentent d'ignorer la question pour vivre comme elles l'entendent. Non, c'est pour les faibles. Nous, on a ce qu'il faut. On prend plaisir. Dieu, c'est une béquille pour les faibles. Alors je suis fier d'être un faible. Ces personnes se contentent d'ignorer la question pour vivre comme elles l'entendent. Tu peux vivre comme tu l'entends. Vas-y, livre-toi. Fais tout ce que tu veux. Prends plaisir à ce que tu fais. Mais cette voie que tu empruntes, elle est vouée à l'échec. Et pour nous, bien-aimés, notre plaisir, elle est en Dieu. Elle est en sa parole, comme ça nous a été rappelé ce matin. Elle demeure dans la foi. La foi est un plaisir. On prend plaisir en Dieu. C'est cela qui satisfait, qui compense notre cœur. Mais ceux qui vivent selon les plaisirs sans Dieu, mon ami, c'est une voie d'échec. Laisse-moi te dire que tu vas à ta perte. Tu veux vivre comme tu l'entends? Tu es libre de le faire. Mais moi, j'aimerais t'inviter. J'aimerais t'inviter à prendre plaisir. Non pas en un objet, non pas en quelque chose qui passera, mais en quelque chose d'éternel, en Dieu lui-même, qui a donné son Fils, afin qu'on puisse prendre plaisir en lui, en la loi de l'éternel. Certains vivent en effet très bien sans Dieu, sans se poser de questions non plus sur le sens de la vie, sur les valeurs, sur la vie après la mort, la raison de la présence du mal en l'homme. C'est un choix. Si nous voulons par contre avoir des réponses justes et pertinentes à ces questions, Dieu est celui qui peut nous les apporter. Car en tant que créateur, c'est lui qui sait tout. Pour le chrétien, faire le choix de non-Dieu est une illusion. C'est de l'appareil à pile qui se croit autonome et indépendant de son concepteur. L'échec de la vie sans Dieu, la vie sans Dieu, elle est vouée à l'échec. La sagesse sans Dieu, elle est vouée à l'échec. L'échec des plaisirs de ce monde, elle va tout droit à l'échec. Et tant qu'on a la vie, il y a là encore une occasion de pouvoir revenir à l'essentiel. Il y a encore une occasion de pouvoir tenir ferme dans la foi, de se dire une bonne fois pour toutes, Seigneur, je veux marcher avec toi. C'est dur, mais je veux continuer. J'arrive pas à comprendre, mais je demande sagesse. Il te suffit de t'approcher. C'est quoi croire? Croire dans la Bible veut tout simplement dire faire confiance. Faire confiance. Peut-être que tu te poses la question, pourquoi dois-je croire en Dieu si Dieu existe vraiment? S'il existait, nous en aurions des preuves évidentes et ainsi tout le monde serait croyant. La foi ne serait pas quelque chose de subjectif, comme c'est le cas. C'est donc que Dieu existe probablement pas, mais que ce sont les hommes qui l'ont inventé. Dieu ne s'impose pas. Dieu ne souhaite pas imposer une religion aux hommes. C'est-à-dire l'obligation de l'adorer comme Dieu. Dieu veut une relation personnelle. C'est une relation qu'il veut avec toi. Parce qu'il est amour, l'amour vrai ne s'impose pas. Il est une invitation qui prend le risque du rejet, de la moquerie, du mépris. C'est une invitation qui prend le risque du rejet, du mépris et de la moquerie. Ça sera bizarre peut-être dans les jours à venir, si tu fais le pas ce soir, quand on te rejette, sans aucune raison, qu'on se moque de toi parce que tu as pris position. Ça semblerait bizarre, mais c'est tout à fait normal. Ça sera tout à fait normal. Parce que croire dans la Bible veut dire faire confiance. Fais confiance. Fais confiance. Tout n'est que absurdité. Ainsi, la vie est absurde sans Dieu. Tout est absurde. Et la question demeure, mais quel avantage? Quel profit pour moi? Le mot dans l'original signifie plus précisément une compensation satisfaisante. Quelle sera ma compensation qui me satisfera? Ce qui implique un gain, un profit ou une récompense. L'Ecclésiaste, dans sa quête de sens, investit toutes ses aspirations dans ce monde et attribué une valeur suprême aux choses de cette vie. Il a recherché un sens dans la sagesse, le plaisir, le progrès, le travail, la puissance et la richesse. Tous ces symboles contemporains d'une vie réussite sont testés au maximum et chacun s'avère insuffisant. Entièrement dénué de sens et futile. Mais alors, où trouver la compensation satisfaisante? Je vous pose la question. Où trouver, moi étant jeune, où trouver la compensation satisfaisante? Mes frères âgés, où trouver la compensation satisfaisante? La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce qui compense notre cœur. Voilà ce qui satisfait notre cœur. C'est Jésus-Christ mort à la croix du calvaire. C'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu a envoyé son Fils afin que nous ne puissions pas être loin de lui. Afin qu'un jour, lorsque nos yeux fermeront sur cette terre, nos yeux s'ouvriront face à face avec lui. Là où il n'y a ni pleurs, ni cris, ni douleur, ni souffrance. Là, nos yeux le verront face à face et nous pourrons contempler dans toute sa gloire. C'est là, Dieu a envoyé son Fils. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous qu'il l'a envoyé. Ce n'était pas quelque chose de hasard, ouais, je vais l'envoyer pour... Non, ça a été volontaire de sa part. Ça a été une intention parce qu'il t'aime, parce qu'il voulait te sauver, parce qu'il voulait te sortir de cette situation et t'amener sur le roc perpétuel des temps afin que tu aies la vie, afin que tu aies une espérance, afin que tu aies un avenir ou une espérance. Pas quelque chose qui sera perdu dans les méandres du cosmos, mais quelque chose de sûr et de certain. Mes péchés ne sont pas dans les airs à flotter comme des oiseaux. Non, ils sont cloués à la croix du calvaire et je suis pardonné. Si tu viens, Jésus-Christ, si tu fais le choix, les péchés seront pardonnés, tu seras justifié. Et ainsi, le cœur, ton cœur, recevra cette compensation satisfaisante. Mon cœur recevra. Et nous, frères et sœurs, nous avons cette compensation satisfaisante. Nous marchons dans cette compensation satisfaisante, même si c'est dur, même si physiquement c'est dur, même si spirituellement c'est dur, même si intellectuellement c'est dur. Il y a l'oppression, il y a les difficultés, il y a les labeurs, il y a les raisonnements, l'inquiétude, le doute, etc., etc. Bien sûr. Mais nous avons cette compensation satisfaisante en nous qui nous donne l'assurance que jour après jour, même si c'est dur, j'ai cette joie-là, j'ai cette espérance-là qui est sûre et certaine. Qui est sûre et certaine. Ainsi, je ne perds pas courage, mais je vais de l'avant. Mais si ce n'est pas ton cas, moi, je t'invite de tout mon cœur. Dès ce soir, ta vie, elle peut être changée radicalement, instantanément, si tu mets ta foi en ce Fils, le Fils de Dieu, celui qui a donné ta vie, pourra te délivrer complètement. Je le crois de tout mon cœur qu'il peut te délivrer complètement de cette passion qui t'a servi. Toi-même, tu sais ce qui t'a servi. Toi-même, tu sais cet obstacle qui t'empêche de te donner complètement à Dieu. Ce soir, Dieu peut te guérir. Dieu peut te délivrer totalement. Dieu te donne également la confiance pour toi, mon frère, ma soeur, pour l'assurance pour nos familles et nos amis. Dieu donne l'assurance. Ainsi, nous ne sommes pas ébranlés. Certes découragés, mais nous avons la force et le courage en lui. Ainsi, une invitation à toi qui n'as pas fait le pas. J'aimerais t'inviter maintenant. Maintenant, c'est ton soir. Maintenant, c'est ton soir. Tu peux faire le pas ce soir et mettre ta foi, croire et mettre ta confiance en Dieu. Et ainsi, recevoir les bénédictions parfaites, spirituelles parfaites en Jésus-Christ. Ainsi, ne tarde plus. Ne tarde plus, je t'y encourage. Ne perds pas espoir. Mais tends la main et de tout mon cœur, je crois que Dieu fera. Dieu fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit dans sa parole. Il le fera. Il le fera. Et c'est lui qui sera cette compensation satisfaisante. Ce gain, ce profit, cette récompense en mon cœur, dans ton cœur. J'aimerais qu'on puisse prier quelques instants ensemble.